Le journal Loïc Barrière. De nouveaux corps repêchés au large de la Syrie après le naufrage d'un bateau de migrants. On déplore au moins 89 morts et des dizaines de disparus. Plus de 700 personnes arrêtées en Iran, dont 60 femmes, lors des manifestations déclenchées après la mort d'une jeune femme détenue par la police des mœurs. Il s'agit d'un mouvement de femmes appuyé par des hommes qui porte sur la liberté vestimentaire, affirme Farhad Khosrokavar, spécialiste de l'Iran. Selon lui, les manifestantes iraniennes ne dénoncent pas le voile, mais le voile obligatoire. Devant l'Assemblée générale de l'ONU, le président palestinien Mahmoud Abbas affirme qu'Israël n'est plus un partenaire pour la paix. Après la visite d'Emmanuel Macron en Algérie cet été, la première ministre Elisabeth Borne sera à Alger en octobre pour une réunion des gouvernements algériens et français. Enfin, l'ONG Sanad fournit des soins palliatifs aux personnes en fin de vie au Liban. Un concert caritatif aura lieu le 14 octobre, salle Cortot à Paris, pour lui permettre de poursuivre sa mission. Entretien avec Ayman Abdo de l'ONG Sanad. Après le naufrage d'un bateau de migrants au large de la Syrie, le bilan est révisé à la hausse avec au moins 89 morts. Mais le bilan risque d'être plus lourd car des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Selon les autorités syriennes, environ 150 personnes se trouvaient à bord du bateau qui a fait naufrage au large de Tartous. Après être parti du Liban, seules 20 personnes ont survécu au naufrage, dont une dizaine d'enfants. Les passagers étaient principalement des Libanais et des réfugiés syriens et palestiniens. Le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, parle d'une nouvelle tragédie déchirante. En Iran, les autorités ont arrêté 739 personnes, dont 60 femmes, dans le nord du pays. Toutes sont accusées d'avoir participé aux manifestations qui ont commencé il y a plus d'une semaine après la mort d'une jeune femme détenue par la police des mœurs. Elle avait été arrêtée parce que sa tenue vestimentaire était jugée incorrecte. Les manifestations dans des dizaines de villes du pays ont fait 35 morts selon les autorités, 50 morts selon une ONG. Entretien avec Farhad Khosrokavar, ancien directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, spécialiste de l'Iran.
En Iran, on assiste depuis 2016 à une continuité dans les mouvements de protestation. Ce sont des mouvements qui, jusqu'à présent, ont été fondés sur la dénonciation de la corruption, sur le fossé des classes et sur une vie quotidienne de plus en plus insupportable compte tenu d'une économie du diable, avec un taux d'inflation extrêmement élevé et un écrasement, en quelque sorte, des petites classes moyennes qui rejoignent les classes d'en bas, les classes pauvres. Mais maintenant, ce qui est nouveau, et c'est là qui est digne d'intérêt, c'est qu'il s'agit, pour commencer, d'un mouvement de femmes. Il porte sur la liberté vestimentaire, entre autres. C'est en cela qu'on peut parler d'un mouvement nouveau par rapport à ceux qui ont défrayé la chronique entre 2016 et 2019-2020. C'est un mouvement où les femmes dénoncent non pas le voile, mais le voile obligatoire. C'est ça qui est fondamental. Il ne s'agit absolument pas de se montrer anti-islamique, mais il s'agit de dénoncer un islam imposé d'en haut. Et c'est ça qui est très important. Jusqu'à il y a encore 2 ans, les femmes dénonçaient surtout les conditions juridiques, l'inégalité juridique avec l'homme, l'application de charia, sans considérer les changements qu'il faut y apporter pour qu'elle soit, en un sens, conforme aux exigences, aux aspirations du monde moderne. Et on voit bien que maintenant, la question du voile surgit. Mais c'est une question, encore une fois, qu'il ne faut pas interpréter comme étant le refus de l'islam en soi. C'est le refus d'un islam obligatoire, coercitif, imposé d'en haut, et qui fait que ces femmes n'acceptent pas de jouer le jeu pervers qui consiste à dénier les aspirations de leur subjectivité.
Les autorités iraniennes ont-elles été surprises par l'extension de ce mouvement ?
Oui. Oui, non seulement eux, ils ont été surpris, mais disons que une grande partie des politiques en Iran et même les sociologues ont été surpris. Ce qui distingue ce mouvement des femmes, qui a une dimension indéniablement féministe, du mouvement de femmes en Occident, c'est que ce mouvement a été accompagné du soutien d'une très grande partie des jeunes hommes. En un sens, il s'agit d'un mouvement de femmes, mais qui est appuyé par les hommes, ce qui fait que on a un mouvement collectif qui va outre les distinctions du genre. Le commencement est la revendication du foulard qui ne soit pas obligatoire, du foulard en un sens selon la volonté de la femme, qu'elle porte ou non, que ce soit elle qui décide, mais par conséquent, on est dans ce contexte-là, avec des hommes qui manifestent pour dénoncer de manière beaucoup plus étendue ce qu'on pourrait appeler la répression par le pouvoir en place.
Et face à cette colère, le régime peut-il montrer des signes d'ouverture ?
Écoutez, le problème essentiel, c'est que s'il montre des signes d'ouverture, il risque aussi de perdre la face vis-à-vis d'une partie de ces soutiens qui sont une infime minorité, mais qui sont très structurés. Et donc, moi, je crois que le régime n'est pas capable de faire trop d'avance à ce sujet, parce que il craint de perdre l'appui de ce volet répressif, en quelque sorte, qui le soutient. Je ne le pense pas. Je pense que le régime est pris dans une sorte de d'étau entre le marteau et l'enclume. Et par conséquent, il va essayer de réprimer le mouvement, même si au sein du régime, il y a des voix qui se lèvent et qui dénoncent cette manière de procéder qui consiste à réprimer les femmes. Et n'oublions pas que ôter son foulard est maintenant une sorte de quasi-crime, c'est-à-dire susceptible d'emprisonnement. Et alors, il y en a, par exemple, des voix, des gens qui font partie de l'élite du régime, mais qui sont quand même encore très minoritaires, qui affirment qu'il faut transformer cela en une sorte d'amende, plutôt que ce soit une procédure judiciaire impliquant l'emprisonnement des femmes. Ça existe. Mais, encore une fois, je vois mal comment le pouvoir pourrait céder d'une manière ou d'une autre, de manière beaucoup plus radicale, parce qu'il ne s'agit plus maintenant de mouvements de seules femmes, mais il y a aussi les hommes. Et par conséquent, on est dans une impasse et répression contre répression.
Et cette colère que l'on voit dans de nombreuses villes iraniennes représente-t-elle l'état d'esprit de l'ensemble de la société iranienne ?
On ne peut jamais dire l'ensemble de la société iranienne, mais disons d'une très grande partie de la société iranienne. Oui, il y a une sorte de délégitimation du pouvoir liée à ce qu'on pourrait appeler ces échecs successifs. Par exemple, dans les classes sociales, le fossé s'est transformé en un gouffre. L'élite du pouvoir, par la corruption, par le clientélisme et par d'autres voies, s'enrichit à vue d'œil. Ses enfants, aux États-Unis, au Canada, en Australie et ailleurs, mènent un train de vie vraiment dispendieux. Et tout le monde le voit sur Internet, parce qu'on les dénonce. Et d'un autre côté, une population qui de plus en plus est réduite à la misère et qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins quotidiens, tant la cherté est immense et les ressources infimes. Par conséquent, il y a aussi cette dimension de classe. Mais à cela s'ajoute aussi la répression culturelle des femmes, mais aussi en partie des hommes.
Quelle est l'influence aujourd'hui de la société civile iranienne et par quel biais peut-elle s'exprimer en dehors de la rue ?
Il n'y a que par les mouvements de protestation. La société civile iranienne maintenant n'a plus les moyens de s'exprimer. Tant qu'il y avait des réformateurs, si vous voulez, au pouvoir, ils pouvaient plus ou moins montrer ces revendications. Mais maintenant, comme le pouvoir est entièrement aux mains de ceux qu'on appelle les conservateurs, il n'y a plus de possibilité d'expression de soi autrement que par des mouvements de protestation.
Farhad Khosrokavar, spécialiste de l'Iran, ancien directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, il répondait à François-Xavier de Calonne. Nous n'avons plus de partenaire israélien à qui parler. Déclaration du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à l'Assemblée générale de l'ONU. Il a accusé Israël de ne pas croire à la paix. Selon lui, Israël torpille de façon préméditée et délibérée la solution à deux États et agit en toute impunité. Le président palestinien a accusé une nouvelle fois Israël de pratiquer une politique d'apartheid. Après Emmanuel Macron en août dernier, Elisabeth Borne se rendra en Algérie les 9 et 10 octobre pour mettre en œuvre le partenariat franco-algérien avec son homologue Ayman Ben Abdelrahman. La première ministre française présidera la 5e session du comité intergouvernemental de haut niveau. L'ONG Sanad, fondée au Liban, s'est donnée pour mission d'accompagner les personnes victimes de maladies incurables ou en fin de vie, accompagnement à domicile, soins palliatifs, aide psychologique. Mais face à la crise que traverse le Liban, l'ONG a besoin de dons financiers pour poursuivre sa mission. Le 14 octobre, un concert caritatif aura lieu à la salle Cortot, dans le 17e arrondissement de Paris. On écoute Ayman Abdo, un des responsables de l'ONG Sanad.
C'est Madame Lubna Azeddine. Après avoir témoigné avec sa mère des soins palliatifs en Jordanie, il y a 15 ans, je crois, ainsi avec les professionnels de santé publique au Liban, ont décidé de créer Sanad en 2010, devenant ainsi la première organisation de soins palliatifs au Liban. Et depuis lors, l'organisation n'a cessé de se développer pour atteindre davantage de patients en phase terminale et leurs familles à Beyrouth et à Beyrouth. Donc en fait, Sanad est une organisation de soins palliatifs au Liban. C'est la première organisation, comme on l'a dit. Sa mission est de fournir des soins palliatifs gratuits à domicile aux patients atteints de maladies chroniques, en stade avancé ou en phase terminale, tout en préservant leur dignité, en améliorant leur qualité de vie. Nous avons jusqu'à maintenant servi 2000 patients à Beyrouth et à Beka.
Et c'est une culture qui a besoin d'être développée, la culture des soins palliatifs. Il faut expliquer exactement ce que c'est permettre aux patients de moins souffrir.
Exactement. Bon, au Liban, les soins palliatifs sont de nouveautés en fait. Ce type de soins n'est pas intégré dans le système de santé. Et Sanad a été fondé pour relever de nombreux défis auxquels sont confrontés les patients souffrant de ces maladies-là. On parle des défis médicaux, y compris la douleur et les symptômes tels que le manque d'énergie, la fatigue, l'agitation, la nausée, la constipation, le vomissement, et les défis sociaux encore, comme la prise de décision, les changements dans les rôles et les relations familiales et d'autres besoins spirituels des patients et de leur famille. Il y a encore les préoccupations psychologiques et les difficultés émotionnelles. On parle d'un patient en phase terminale, donc les patients peuvent ressentir de la peur, de l'anxiété liée à leur pronostic incertain, à l'évolution possible de la maladie et finalement à la mort. Donc les patients peuvent également souffrir de dépression associée à une diminution des sentiments d'autonomie, d'utilité et de dignité et de contrôle. Ce que nous fournissons, en fait, c'est un soutien médical qui comprend des soins médicaux et infirmiers pour des visites régulières à domicile, une gestion de la douleur et des symptômes, et une fourniture de médicaments, de matériel médical et d'équipement encore. Et sur le plan de soutien social, il y a un soutien social pour assurer un sentiment de sécurité et de sérénité. Et en même temps, on essaie toujours d'identifier les priorités des patients. Et également, il y a un soutien psychologique avec des professionnels, des psychologues. Donc, il y a un soutien psychologique pour des patients et leurs familles pendant toute la durée des soins. Et un soutien pendant la période de deuil encore. Voilà, c'est en résumé ce qu'on fait.
Et ce soutien, il a lieu à domicile. C'est important notamment pour que ces personnes se sentent moins mal dans cette phase ultime de leur vie.
Exactement. Donc tous les patients, la majorité des patients préfèrent de mourir à la maison en fait. À la maison, à leur maison, à leur propre maison, dans le calme de leur maison et avec leur famille en fait. C'est ça. C'est toujours la priorité des patients et de leur famille. Et ce qu'on essaie encore, on essaie de faire tout au long de notre accompagnement des patients, de convaincre les aides-soignants en fait aux besoins des patients et de leur éduquer à comment répondre dans des situations urgentes, il y a cet aspect éducatif encore qu'on offre.
Et donc pour financer ces soins à domicile pour les patients en fin de vie, vous avez besoin d'être financé. C'est la raison pour laquelle vous allez organiser un concert à Paris en octobre ?
Exactement. Donc en fait, nous cherchons constamment à diversifier nos sources de financement afin de pouvoir maintenir nos services. Comme vous connaissez maintenant, évidemment, la situation au Liban, on est dans une crise première, la plus grave dans son histoire. Donc la pression sur Sanad ne fait qu'augmenter. De plus en plus de patients en phase terminale et leurs familles confrontées à un secteur de soins de santé de plus en plus inaccessible font appel à nos services pour obtenir des soins de fin de vie qui sont dignes et gratuits en même temps. Et donc, comme vous savez encore, le système de santé connaît actuellement la plus grande fuite de cerveau de son histoire. Il y a 40% des médecins, 30% des infirmiers qui ont quitté le pays depuis octobre 2019. Et par conséquent, la plus grande priorité de l'organisation maintenant, en ces temps difficiles que traverse le pays, est de retenir ses infirmiers afin de renforcer sa capacité à fournir ses services. En fait, nous cherchons constamment à diversifier nos sources de financement, comme je l'ai dit. La recherche de sources de financement devient un véritable défi, car le pays, la région et même le monde passent d'une crise à une autre. Cela provoque généralement des crises humanitaires supplémentaires, ce qui met une pression supplémentaire sur les donateurs internationaux. Et aujourd'hui, dans le but de sensibiliser la diaspora libanaise, nous organisons un concert de collecte de fonds à Paris le 14 octobre avec le musicien libanais Shabel Bafana et le poète tunisien Anis Souchem. Et aura lieu à la salle Courtois à Paris. Et nous avons vraiment besoin du soutien de tout le monde pour pouvoir dépasser cette situation difficile que le pays passe. Comment rejoindre Sanad? Donc, il y a le site internet de Sanad, c'est www.sanadhospice, donc hospice, c'est hospice.org. Et tout le monde peut faire des dons à travers cette page-là.
Aymen Abdo de l'ONG Sanad. Vladimir Poutine a signé des amendements qui prévoient jusqu'à 10 ans de prison pour les militaires qui désertent ou refusent de combattre en période de mobilisation. Le président russe tente de faire face à une vague de désertion sans précédent en Russie, alors qu'il a ordonné une mobilisation partielle dans le cadre de la guerre en Ukraine. Le président Poutine a également signé une loi qui facilite l'accès à la nationalité russe pour les étrangers qui s'engagent dans l'armée pour une durée de au moins un an. Enfin, l'invité de la bibliothèque de Radio-Orient à 23h est l'écrivain Sabil Roussoub pour son roman intitulé « Beyrouth sur Seine » aux éditions Stock, un roman en lice pour le prix Goncourt. Rediffusion de cette émission ce dimanche à 19h. Cette édition est terminée. Retrouvez-nous sur radioorient.com, Facebook, Twitter et Instagram. Merci d'être fidèle à Radio-Orient.